Bienvenue à tous hein, sur cette nouvelle journée du séminaire donc solutions fondées sur la nature, système hybride lié à l'eau, donc caractérisation et gestion patrimoniale. Donc je vous rappelle ou je vous indique si vous n'étiez pas là hier que les sessions sont enregistrées afin que vous gardiez une trace des échanges qui auront lieu. On a aussi mis dans le chat un lien vers un fichier sur lequel vous pouvez laisser vos coordonnées. On a une trace aussi des personnes qui ont participé. Et puis, pour vous rappeler le programme de la journée, donc, nous allons commencer par une conférence introductive et ensuite nous aurons un atelier ce matin de 10h à 12h, puis un deuxième atelier cet après-midi de 14 à 16h. Donc, on va commencer tout de suite, si j'arrive à passer ma planche. Voilà. Par une conférence qui va être présentée par Frédéric Cherki. Donc, la conférence va durer 25 minutes et il y aura ensuite 5 minutes de questions suite à cette conférence. Et donc, je vous invite à poser vos questions via le chat, donc soit pendant la présentation, soit à l'issue de la présentation, lorsque vous avez des questions que vous souhaitez poser. Et je vous demanderai qu'on soit dans une bonne qualité d'échange, de bien penser à couper votre micro. Sinon, je me permettrai de le faire si je vois que certains micros sont ouverts pour ne pas gêner les présentations et les échanges ensuite. Voilà, écoute Frédéric, je te laisse la parole pour 25 minutes.
Merci. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, normalement, vous voyez ma présentation. Tout d'abord, merci à Corinne, à Cathy et puis à l'ensemble des organisateurs pour l'invitation. Donc, ma présentation a fait suite à l'excellente présentation d'Emma Thébault, qui était hier sur l'évolution de la gestion urbaine de l'eau. Et moi, je vais focaliser beaucoup plus sur la partie gestion patrimoniale, sur les ouvrages de gestion des eaux pluviales. Donc, je parle des ouvrages de gestion des eaux pluviales, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter pour vous à faire des parallèles avec les solutions fondées sur la nature que vous connaissez, qui vous concernent. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on partage nos connaissances et nos expériences pour mieux gérer ces solutions. Donc, la présentation, je vais commencer par des définitions pour qu'on soit bien au clair de ce dont on parle. Et puis, progressivement, je vais aller vers ce qui va nous intéresser plus, c'est les défis de gestion patrimoniale de ces ouvrages. Donc, première partie, première définition. Donc, qu'est-ce que c'est les techniques de gestion des eaux pluviales? Grâce à la présentation d'Emma hier, je peux aller assez vite sur l'explication. Et je vais faire un très court pour ceux qui n'étaient pas forcément là hier. Par le passé, quand on a géré les eaux pluviales, en fait, on a considérer qu'on voulait une ville imperméable et l'idée c'était d'évacuer les eaux pluviales en dehors de la ville le plus rapidement possible. Donc on a imperméabilisé les villes, on a fait des canalisations dont certaines ont des diamètres assez impressionnants et on a fait une espèce de ville entonnoir qui permettait d'évacuer l'eau pluviale au plus rapidement possible. Et ce vers quoi on tend de plus en plus aujourd'hui, c'est de remettre de la perméabilité à la ville, donc de désimperméabiliser les villes pour que l'eau puisse s'infiltrer. Alors, selon les pays, on a des concepts différents. En France, on est beaucoup plus sur l'aspect de ville perméable, où on vise à redonner de la perméabilité et infiltrer l'eau. En Asie, en Chine, on parle de ville éponge, où l'idée, ça serait que la ville, elle va infiltrer l'eau. Elle va retenir l'eau et on va pouvoir la réutiliser derrière. En Australie, on parle de ville sensible à l'eau, où on essaye d'effacer complètement la ville par rapport au parcours de l'eau, au cycle de l'eau. Mais derrière, même si les finalités ne sont pas exactement les mêmes, l'objectif est toujours de redonner de la perméabilité à la ville. Par rapport à la situation du siècle dernier, on était sur des villes imperméables. Toujours dans les définitions, c'est important de comprendre comment on redonne ces perméabilités à la ville et qu'est-ce que les techniques alternatives? Donc, les techniques alternatives, elles ont été élaborées avec des fonctions principales. La première est de réduire les débits de pointe. Donc, quand il va y avoir des forts événements pluvieux, d'avoir moins de débit à gérer pendant ces événements pluvieux, de réduire les volumes qu'on va avoir à gérer, donc d'infiltrer au maximum. Il y a d'autres fonctions importantes comme réduire la pollution apportée au milieu naturel, recharger la nappe phréatique. Et après, il y a toute une série de fonctions qui sont moins dédiées à la gestion de l'eau directement, mais qui sont importantes sur ces ouvrages. S'intégrer au paysage, développer la biodiversité, etc. Si on regarde les fonctions hydrauliques, il y a deux fonctions très importantes sur les techniques alternatives qui vont définir la conception de ces ouvrages et leur fonctionnement. Donc, ces fonctions techniques, c'est la rétention et l'infiltration. Je vous prends un exemple assez simple. On considère un bassin d'infiltration qui est ici en eau après un fort événement pluvieux. Donc, je prends ce bassin d'infiltration. Si je fais une coupe sur ce bassin d'infiltration, mon objectif, donc, c'est d'infiltrer l'eau pluviale. Et pour infiltrer l'eau pluviale, en fait, comme le débit d'infiltration va être beaucoup plus faible que le débit d'apport d'eau pluviale, je vais avoir besoin de retenir l'eau le temps que l'infiltration se fasse. Donc, sur quasiment tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales, on a l'infiltration quand le sol le permet, quand les conditions le permettent, et on a toujours la rétention. Et si on n'a pas d'infiltration, on a un débit régulé vers un autre ouvrage ou vers le milieu naturel. Donc, c'est vraiment ce qui définit les techniques alternatives, c'est une rétention et, si possible, de l'infiltration. Donc, c'est les composants hydrauliques très importants de ces techniques alternatives. Après, ces techniques alternatives, par rapport à ce qu'on faisait quand on faisait des réseaux pour transporter les eaux pluviales, elles ont d'autres bénéfices qu'on peut rassembler dans l'aspect de s'intégrer dans la vie et dans la ville. Ces techniques alternatives, elles sont en surface, donc ça va être des éléments de décor urbain, ça va être des objets qui vont mettre en valeur la ville, ça va être aussi des supports de biodiversité, et ça peut être aussi des supports d'activité pour les usagers de la ville. Donc, on a des fonctions hydrauliques. Ce pourquoi on a fait les ouvrages, c'était les fonctions hydrauliques. Mais après, on a toute une série de fonctions qui ne sont pas hydrauliques, mais qui sont tout aussi importantes sur ces ouvrages. Donc ça, c'est pour aller vite sur qu'est-ce que les techniques alternatives. Maintenant, l'autre question, c'est qu'est-ce que la gestion patrimoniale ? Je vous ai mis une définition assez simple, assez résumée pour présenter ce qu'est la gestion patrimoniale. Donc, et qui s'applique quel que soit le patrimoine. Ce n'est pas forcément dédié aux ouvrages de gestion des eaux pluviales, c'est quel que soit le patrimoine. Donc, la gestion patrimoniale est l'art d'équilibrer les performances, les coûts, les risques sur le long terme. On va trouver plein d'autres définitions qui vont en fait être des définitions un peu plus subtiles, un peu plus complètes que cette définition-là, mais celle-là, elle a le mérite d'être assez courte et assez claire. Donc, il y a des mots importants, en fait. On va parler d'équilibrer les performances. Donc, on va regarder ce à quoi l'ouvrage, quels sont les services rendus par l'ouvrage, et on va vérifier que ces services sont rendus dans le temps. Maintenant, à moyen terme, sur les quelques prochaines années, et à long terme, sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Et quel que soit l'ouvrage, on peut parler de gestion des eaux pluviales, mais on peut parler aussi d'un système de voies ferrées, d'un système d'autoroute, c'est exactement la même chose. On va équilibrer les coûts aussi, donc les coûts de possession et les coûts de gestion. Et en général, on va considérer qu'on va avoir à intervenir, à réparer, réhabiliter, quand les coûts de gestion deviennent trop importants pour maintenir le service. Donc, quand un élément du patrimoine commence à coûter trop cher, c'est le moment de le changer, de le réhabiliter pour qu'il continue à donner, à rendre les services à des coûts acceptables. Et le troisième aspect important, c'est que le patrimoine, on va essayer de limiter les risques et les nuisances. Donc, les nuisances, ça peut être des problèmes d'odeur sur des réseaux d'assainissement, ça peut être des problèmes de petites inondations, et les risques associés, ça va être des risques notamment liés aux problèmes d'inondation et qui peuvent mettre en danger les biens ou les personnes. Donc, on vérifie que le système dans son ensemble, le patrimoine, il répond aux services fournis, à des coûts acceptables et sans gêner ou mettre en danger les biens ou les personnes. Donc, on est sur ces trois volets quand on va faire de la gestion patrimoniale. Et ces trois volets, on va les traiter maintenant, pour l'année à venir, pour les 5 prochaines années et pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Après, il y a un autre mot intéressant dans la définition, c'est que les auteurs ont choisi de parler d'art et non pas de science. C'est une discussion qu'on pourrait avoir sur la gestion patrimoniale. Ça repose sur des modèles, ça repose sur des données, mais il y a un caractère non maîtrisé sur le futur qui fait qu'on pourrait quasiment parler d'art. Alors l'art, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut le faire, ça veut dire que ce n'est pas une science si exacte que ça de faire la gestion patrimoniale sur le long terme, et les choix ne seront pas forcément les mêmes selon qui va s'occuper de la gestion patrimoniale. Donc ça, c'est la définition très théorique. Et maintenant, si on commence à revenir sur nos techniques alternatives ou nos ouvrages de gestion des eaux pluviales, bah, la première question qu'on peut se poser, en fait, c'est pourquoi on a besoin de parler de gestion patrimoniale sur ces ouvrages. Alors, pourquoi on va parler de gestion patrimoniale? La première chose, en fait, c'est que la gestion de ces ouvrages, elle n'est pas si simple que ça, puisqu'il y a une partie de ces ouvrages qui va être enterrée. Tout ne se passe pas en surface, donc on n'est pas au courant si facilement que ça de l'état des ouvrages et de leur fonctionnement. Quand je fais de la gestion patrimoniale des routes, je peux facilement savoir si ma route elle commence à ne plus rendre son service, parce qu'on va avoir du mal à circuler dessus, parce que l'état de surface va être endommagé. Sur des techniques alternatives, sur la partie enterrée, il peut y avoir des infiltrations, il peut y avoir toute une série de problèmes dont je ne vais pas forcément avoir connaissance si je ne vais pas voir ce qui se passe. Donc, il va falloir que je travaille sur les méthodes pour voir ce qui se passe, parce que c'est pas si évident que ça. La deuxième raison, en fait, c'est que comme tout objet, toute infrastructure, ben, parfois, ça ne fonctionne pas comme c'était prévu. Donc, on avait un objectif à la conception, on a fait la conception et on a réalisé l'ouvrage. Et l'ouvrage, dès le début, il ne fonctionne pas comme prévu. Ce que vous voyez sur la photo de gauche, c'est une tranchée d'infiltration qui est en partie mise sur la place de stationnement et qui n'infiltre pas tant que ça, qui infiltre beaucoup moins que ce qui était prévu. Et donc, ça veut dire que dès la conception ou dès la réalisation, il faut se poser les questions sur est-ce que les services sont rendus. Et il ne faut pas forcément attendre un nombre d'années important pour vérifier que les services sont rendus. À droite, on est plus sur des problèmes très classiques de bouchage de feuilles d'avaloir, en fait, qui vont faire que on va avoir des débordements, des nuisances locales, et qui sont pas liés à la taille des réseaux, mais qui sont vraiment liés à la conception des avaloirs dans les zones où on va avoir beaucoup d'arbres à feuilles caduques. Après, ça peut, heureusement, dans la majeure partie des cas, fonctionner comme prévu, au moins au début. Et puis après, bah, il peut se passer que ces ouvrages ils sont mal utilisés. Mal utilisés, ça veut dire que bah, quand j'ai fait la conception, je n'ai pas forcément prévu que quelqu'un allait utiliser l'ouvrage de cette manière-là. Donc, je vous ai mis deux illustrations. En haut à gauche, c'est à Bordeaux. À Bordeaux, on avait une vanne en entrée d'un bassin d'infiltration, un bassin de rétention à sec, donc qui est sec la majeure partie du temps et qui est rempli en eau uniquement quand il pleut pour faire de la rétention. Et en fait, les riverains ont enlevé la vanne pour que le bassin de rétention il soit non plus à sec, mais tout le temps en eau, parce que c'était beaucoup plus joli dans le quartier. En fait. Donc, ils considéraient que l'ouvrage ne fonctionnait pas, puisqu'il n'y avait jamais d'eau dedans. Et ils ont vu que le problème il venait d'une vanne qui était devant, qui devait mal fonctionner. Donc, ils ont enlevé la vanne. Évidemment, ce n'était pas l'intention, puisque la rétention, elle servait surtout si le bassin était sec avant les événements pluvieux. Donc, mauvaise utilisation. Autre exemple en bas à droite, bah, vous avez un bassin qui sert à la gestion des eaux pluviales et vous pouvez voir à la couleur de l'eau que ce n'est pas forcément des eaux pluviales qui arrivent. C'est bleu, mais ce n'est pas d'un bleu pluvial. Donc, typiquement, c'est autre chose que les eaux pluviales qui vont arriver. Là, c'est des eaux de process industriels. C'est des eaux autres que pluviales qui vont arriver dans l'ouvrage. Et donc, c'est un fonctionnement anormal aussi qu'il va falloir détecter parce que derrière, ça peut mettre en danger l'ouvrage et en tout cas créer des risques ou des nuisances importantes. Ensuite, ces ouvrages, même s'ils fonctionnent bien au début et même s'ils sont bien utilisés, correctement utilisés, ils vont se dégrader avec le temps. Et les dégradations, elles peuvent être de formes très multiples. On peut avoir sur les ouvrages d'infiltration du colmatage, donc on va perdre progressivement la capacité d'infiltration du sol. Et si on infiltre de moins en moins à chaque événement pluvieux, ben la rétention, elle ne peut pas augmenter, on a un volume fini. Donc, on risque de déborder sur des événements pluvieux pour lesquels on n'est pas supposé déborder. Après, on peut avoir des accumulations de sédiments dans des bassins qui vont faire qu'on va perdre une partie du volume de rétention nécessaire. On peut avoir les animaux qui vont abîmer les ouvrages et donc les conduire à ce qu'ils se fragilisent. On peut avoir les déchets urbains qui vont progressivement abîmer ou contraindre un ouvrage et voire boucher des sorties ou boucher des entrées. Et voilà. Et puis les problèmes de colmatage, c'est pas uniquement sur des sols en terre ou autre, ça peut être aussi sur des chaussées poreuses, pour lesquelles, au fur et à mesure du temps, on a des fines qui vont s'accumuler et puis on va colmater progressivement. Un autre élément de pourquoi on fait la gestion patrimoniale, en fait, c'est parce que les attentes, les services rendus par l'ouvrage, ils vont évoluer au cours du temps. Au début, quand on a considéré les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, on était sur un objectif quasi exclusif, qu'on a fait des bassins de rétention, de réduction des débits de pointe. Et puis après, on a commencé à faire réduire les volumes, à infiltrer l'eau pour avoir moins d'eau à gérer derrière. Et puis après, on a dit, ces ouvrages, ils sont en surface, il faut en faire des ouvrages qui s'intègrent bien dans la ville, qui mettent en valeur la ville. Et puis ces ouvrages, ils permettent de traiter la pollution aussi. Donc on a progressivement multiplié les attentes qu'on avait sur ces ouvrages. Et le fait de faire de la gestion patrimoniale, c'est le fait de se poser la question régulièrement si les services que rendent aujourd'hui mes ouvrages, ils sont toujours en phase avec les attentes que j'ai vis-à-vis de ces ouvrages. Et considérant que ces attentes vont évoluer progressivement. Alors, je n'ai pas forcément le temps de détailler tous les services que peuvent rendre les techniques alternatives. On pourra y revenir pendant les questions si vous avez des questions sur ces éléments-là. Et puis après, quel que soit le patrimoine, la gestion patrimoniale aussi, c'est pour améliorer nos pratiques. Quel que soit le patrimoine, on essaye de réduire l'impact qu'on va avoir sur l'environnement à court, moyen ou long terme. Donc, c'est un objectif aussi de la gestion patrimoniale. Et il y en a un dernier qui est très important pour les collectivités, en fait, c'est qu'à partir du moment où je mets en œuvre une gestion patrimoniale, je commence à documenter les pratiques que j'ai et je commence à pouvoir justifier aussi des dépenses que j'ai faites et des budgets dont je vais avoir besoin. Et justifier les priorités d'investissement, c'est hyper important pour une collectivité, pour pouvoir défendre en interne les besoins budgétaires. Après, il y a une distinction qui est existante partout entre l'investissement, les coûts d'investissement que j'ai détaillés ici, de planification, conception, construction, voire dans certains cas remplacement, et les coûts d'exploitation sur l'inspection, maintenance, les réparations, les rénovations. Cette distinction, on va la retrouver au niveau des justifications de budget et on pourrait avoir toute une discussion là-dessus. En fait, elle nous pose des problèmes aussi en termes de gestion patrimoniale, puisque si on arrivait à mettre plus sur la partie exploitation et inspection, peut-être qu'on aurait à mettre moins sur la partie remplacement. Mais aujourd'hui, c'est des budgets très distincts, malheureusement. Donc ça, c'est pour aller assez vite et vous présenter ce qu'est la gestion patrimoniale et ce que ça implique en termes de ce qui doit être fait. Je dois avancer sur la présentation, donc je ne vais pas plus loin, mais pareil, si vous avez des questions à la fin, on pourra discuter de ces éléments-là. Donc maintenant qu'on sait ce que sont les techniques alternatives et qu'on sait ce qu'est la gestion patrimoniale, l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'il y a de particulier quand on fait la gestion patrimoniale sur ces techniques alternatives. La première particularité qu'on retrouve quand même sur d'autres patrimoines aussi, c'est la façon dont on fait la maintenance aujourd'hui de ces ouvrages. Donc la maintenance aujourd'hui, elle est faite de manière corrective. On va attendre où on va constater une défaillance sur un ouvrage pour aller intervenir. Et on va intervenir soit de manière urgente, parce qu'il faut vite intervenir, parce que ça pose des problèmes ou des dangers importants, ou soit on va différer l'intervention, mais on sait qu'il faut y aller, puisqu'on a une défaillance qui est arrivée. L'autre façon de faire, qui serait beaucoup plus intéressante, c'est de faire de la maintenance préventive. C'est-à-dire que je vais aller intervenir sur l'ouvrage avant qu'il y ait la défaillance. Donc si j'y vais avant la défaillance, dans les deux cas, j'ai de la réparation à faire ou de la réhabilitation à faire. Dans un cas, j'aurai eu les conséquences en plus et dans l'autre cas, j'aurai juste la réhabilitation à faire. Pour pouvoir arriver avant la défaillance, j'ai, pour simplifier, trois solutions. Je vais faire des inspections régulières. Je vais aller voir l'ouvrage tous les 6 mois. Et tous les 6 mois, je vais regarder dans quel état il est. Et puis, si jamais il est dans un état qui est susceptible de conduire à une défaillance, je vais programmer une réhabilitation avant que la défaillance arrive. Ce mode d'inspection régulier, moi j'appelle ça de l'inspection aveugle, parce qu'en fait on va définir qu'on y va tous les 6 mois, mais on ne sait pas dans quel état est le patrimoine avant d'y aller. Donc dans certains cas, on va y aller pour constater que le patrimoine est en très bon état et que tout va bien, et dans d'autres cas, on va y aller pour constater que c'est trop tard, la défaillance est arrivée. Et la fréquence d'inspection, elle est difficile à évaluer. Donc, on est sur de l'inspection aveugle, mais c'est un premier niveau. On va inspecter un peu tous les 6 mois, tous les ans, en fonction du budget. Une solution plus intéressante, en fait, c'est d'aller inspecter quand on prévoit qu'il va y avoir une défaillance. Donc, si on peut être averti à l'avance en disant « Oh, je pense qu'il va y avoir une défaillance dans cet ouvrage, il faut y aller avant pour vérifier qu'il n'y a pas de problème », ben là, je fais une inspection beaucoup plus efficace puisque j'y vais que quand je pense que l'ouvrage il est en mauvais état. Pour faire ça, ça veut dire qu'il faut que j'anticipe la défaillance. Et pour anticiper la défaillance, il faut que j'ai un modèle de détérioration qui permette de prédire à l'avance comment va se détériorer mon ouvrage. Ça, c'est super. Ça suppose beaucoup de données. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire sur les techniques alternatives. Et finalement, qu'est-ce qui reste si on veut éviter les défaillances ? Eh bien, c'est d'aller inspecter en continu. Si tous les jours, je passe voir mon ouvrage, il y a de très fortes chances que j'arrive à constater qu'il y a un problème qui va conduire à une défaillance avant même que ça se produise. Après, évidemment, passer tous les jours voir l'ouvrage, c'est un budget plus important. Donc, il faut peut-être d'autres méthodes d'inspection qui permettraient de faire de l'inspection en continu. Ce qu'il y a à retenir sur ces particularités sur les techniques alternatives, c'est comme dans beaucoup de patrimoine pour lequel on commence à faire de la gestion patrimoniale, on n'a pas tant que ça de données et donc on est en maintenance corrective. Maintenance corrective, ça veut dire que les coûts de suivi, ils sont les plus faibles puisque on y va uniquement quand il y a eu un problème. Par contre, les coûts de réhabilitation et des conséquences de la défaillance peuvent être beaucoup plus importants. Donc évidemment, ce serait intéressant d'aller progressivement de plus en plus vers de la maintenance préventive si on arrive à avoir les connaissances et le budget qui le permettent. Une autre particularité des techniques alternatives, c'est le fait que ces techniques alternatives, elles sont souvent construites à partir d'un ensemble important de composants. Alors, l'illustration que vous voyez ici, en fait, ça ne correspond pas du tout à une technique alternative qui existe. C'est plutôt qu'on a rassemblé sur un seul ouvrage tous les types de composants qu'on pourrait rencontrer. Et suivant les composants qu'on va avoir dans un ouvrage, on va avoir des dysfonctionnements, des défaillances ou des dysfonctionnements potentiels sur chaque composant et des conséquences différentes. Donc, ça veut dire que quand j'essaye d'évaluer si mon ouvrage il va avoir une défaillance, ça va dépendre des composants donc de l'ouvrage. Et là, ça complique pas mal tout ce qui va être prédiction ou même inspection, évaluation de l'état de santé. Je vous ai mis une liste à gauche non exhaustive de tout ce qu'on pourrait avoir comme composant. On a l'eau. L'eau, c'est un élément important d'inspection. Comme on le voyait tout à l'heure, l'eau qui était bleue d'un bleu non naturel, d'un bleu non pluvial, était un indice d'un problème. On va avoir les surfaces ruisselantes. On peut avoir les dispositifs de collecte de l'eau, des dispositifs de mesure, de pré-traitement. On va avoir toute la partie biodiversité sur l'ouvrage. On va avoir la couche infiltrante. On peut avoir la partie rétention de l'eau. Des dispositifs de protection. Dans certains cas, certains ouvrages vont être protégés des publics urbains parce que ça pourrait mettre en danger les publics urbains s'ils approchaient de ces ouvrages, notamment les bassins d'infiltration ou avec des risques de chute. Dispositifs d'accès pour faire de la maintenance, etc. Donc, chaque ouvrage a des composants différents. Chaque composant peut amener une ou plusieurs défaillances spécifiques. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de savoir comment l'ouvrage va dysfonctionner. L'autre particularité sur ces techniques alternatives par rapport à d'autres ouvrages, c'est qu'on a, quelque part une infinité d'ouvrages en fait. Chaque ouvrage est différent. Chaque ouvrage va être construit avec une partie génie civil et une partie plus naturelle, mais dans une gamme très différente en fonction de l'espace qu'on a, en fonction du bassin versant traité, en fonction des conditions. Donc, chaque ouvrage est différent. Ça veut dire que si j'envoie quelqu'un pour inspecter l'ouvrage, Eh bien, il faut qu'ils comprennent le fonctionnement. Et chaque ouvrage a un fonctionnement différent. Je n'ai pas les mêmes composants, donc mon inspection elle doit s'adapter aux composants. Et je n'ai pas le même environnement aussi. Je suis dans un centre-ville, je suis dans une zone industrielle, je suis dans une zone plus naturelle. Ça va avoir des conséquences aussi sur le fonctionnement de mon ouvrage. Je peux avoir des zones où l'eau elle va être beaucoup plus chargée en fine, donc j'ai un risque de colmatage plus élevé. D'autres où l'eau est plus polluée. Et pareil, j'ai des attentes très différentes. Si je prends une noue pour retenir et infiltrer les eaux pluviales, si cette noue elle a été installée à l'arrière d'une zone industrielle, on a peut-être beaucoup moins d'importance sur la partie intégration paysagère et le fait que la noue elle soit entretenue et en bel état, à la différence d'une noue qui va être à l'entrée de la ville et qui va être vue par tout le monde et qui va représenter l'image de la ville. Donc, je vais avoir des attentes très différentes. Et un autre aspect très important sur ces techniques alternatives, elles ont été faites à l'origine pour l'hydraulique, pour gérer des problèmes de débit de pointe et de volume. Et puis au final, la fonction hydraulique, elle est parfois secondaire. Si vous prenez une chaussée poreuse, il y a plus souvent des voitures dessus qu'il pleut. Donc la fonction principale de la chaussée poreuse, ça va être la circulation automobile. Et ce n'est plus forcément l'hydraulique. Et dans beaucoup d'ouvrages comme ça, la fonction hydraulique elle va être secondaire puisqu'elle va être mise en œuvre uniquement quand il pleut. Donc ça, c'est aussi une particularité où la fonction principale n'est plus la fonction de conception. Et donc, quand on fait cette gestion patrimoniale, prendre en compte aussi ces fonctions qui sont plus secondaires, qui deviennent principales. Autre aspect sur ces techniques alternatives, ces ouvrages, ils vont intervenir à différentes échelles. L'idéal sur les techniques alternatives, on a tendance à dire, c'est de pouvoir infiltrer l'eau là où elle tombe. Donc d'avoir la technique alternative qui va être à l'échelle de l'habitat, de la parcelle, et qui va permettre d'infiltrer l'eau exactement où elle tombe. Dans certains cas, ce n'est pas possible ou ce n'est pas la meilleure solution. Donc on va avoir des ouvrages qui vont gérer des bassins versants plus conséquents et donc qui vont devenir décentralisés. Et quand vous gérez des ouvrages qui vont être beaucoup plus centralisés, puisqu'ils vont regrouper des forts bassins versants, et quand vous gérez des ouvrages à la fois centralisés, qui reprennent l'ensemble d'un bassin versant, avec des ouvrages décentralisés, qui sont beaucoup plus localisés, et que votre objectif final sur la gestion patrimoniale est de réduire l'inondation à l'échelle du bassin versant entier, et bien vous gérez des ouvrages qui ne sont pas forcément connectés, mais qui contribuent ensemble à la performance totale du système. Et donc, ça complique aussi la gestion patrimoniale. Dernier aspect spécifique aux techniques alternatives, par rapport à d'autres ouvrages, comme j'ai tendance souvent à comparer au réseau de gestion des eaux pluviales, qui existe depuis plus d'un siècle, pour ces techniques alternatives, on a une connaissance très limitée. On a quelques guides qui existent et qui vont donner des recommandations sur l'entretien. On a des guides de conception qui sont maintenant bien faits et beaucoup plus détaillés. Mais sur l'entretien, la gestion patrimoniale, on a beaucoup moins de guides et on a beaucoup moins d'explications sur ce qu'il faut faire et comment évaluer les performances des ouvrages. On a des modèles qui se développent, mais les modèles, ils restent finalement difficilement généralisables parce que chaque ouvrage est différent. Et on a des outils surtout pour aider à la conception, mais on n'a pas d'outils qui vont aider à la gestion et à l'évaluation de l'état de santé. Donc, on a une connaissance plutôt limitée. Je pense que j'ai un peu de retard, j'avance un peu plus vite. Donc, de ça, il y a des défis à relever sur la gestion patrimoniale des techniques alternatives. Le premier défi, en fait, c'est de savoir ce qu'on veut pour son patrimoine sur le long terme. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut avoir comme patrimoine sur le long terme ? Je vous prends un exemple d'un bassin de rétention, mais ça pourrait se généraliser à l'ensemble des ouvrages sur un territoire. La première chose qu'on peut vouloir faire sur le patrimoine à long terme, sur les 20 ou 50 prochaines années, c'est minimiser au possible la gestion. Donc, on va essayer de faire le minimum possible. Alors, ce dont je vous parle, vous pouvez faire le parallèle avec votre maison, votre appartement, si vous êtes propriétaire, ça fonctionnera pareil. Donc, vous pouvez dire, je fais le minimum de travaux, j'investis le moins possible dedans, et puis après, il sera dans l'état où il sera, dans 20 ou 50 ans, et quelque part, ça ne me regarde plus, ou alors, ce n'est pas mon souci. Vous pouvez aussi dire, je vais agrandir, je vais augmenter la taille de ma maison, ou je vais augmenter le volume de rétention de mon système pour pouvoir améliorer la lutte contre l'inondation. Mais je vais faire à l'identique, je vais juste agrandir en fait. Ou alors vous pouvez dire, bah, finalement, tel qu'il est le système, il ne me plaît pas et je vais le transformer. D'un ouvrage qui était très génie civil, je le transforme sur un ouvrage encore plus génie civil. J'enterre en bassin de rétention, comme ça je récupère la surface que je vais pouvoir utiliser pour du foncier ou autre. Après, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est qu'on peut l'intégrer. Donc, on va transformer l'ouvrage pour qu'il s'intègre beaucoup plus à la ville et qu'il serve tout le temps, qu'il ne serve pas uniquement quand il pleut. Donc, il y a un bon exemple dans le 93 d'un bassin de rétention qui a été transformé il y a pas mal d'années maintenant en un terrain de jeu, en fait, où quand il ne pleut pas, on peut vraiment l'utiliser, cette surface, pour faire du basket. Après, il y a d'autres exemples où ces bassins de rétention, des bassins d'infiltration ont vraiment été intégrés pour pousser vers la biodiversité, pour avoir des paysages plus naturels, des ouvrages beaucoup plus naturels. Et puis après, on peut adapter aussi, et c'est ce qu'on a tendance à recommander, passer d'un seul ouvrage, un bassin de rétention, qui a un fonctionnement intéressant, mais limité, à une multitude d'ouvrages qui vont être en cascade et qui vont permettre finalement d'intervenir en fonction du niveau de pluie qu'il va y avoir. Donc d'adapter vraiment la réponse à la sollicitation. Et ça permet à la fois de mieux concevoir ces ouvrages et de mieux les intégrer, mais ça permet aussi d'anticiper des éventuelles évolutions dans le temps en termes de sollicitation. Autre défi à relever sur ces techniques alternatives, là j'ai pris la thèse de Nina Cosset qui a détaillé une noue en bord de voirie au niveau de la métropole de Lyon et qui a mis différentes couleurs en fonction des acteurs qui vont gérer une partie de cette noue. Donc il y a des espaces verts, il y a de la voirie puisqu'on est à côté de la voirie, il y a les arbres d'alignement de la voirie puisqu'on est à côté de la voirie. Il y a le service nettoiement qui peut intervenir parce que ça va récupérer les déchets. Et puis, il y a quand même la partie assainissement parce que c'est quand même un ouvrage aussi pour gérer les eaux pluviales. Et donc, le défi, en fait, en termes de gestion patrimoniale, c'est de pouvoir répartir les tâches, de qui fait quoi, répartir le savoir sur ce qu'il faut faire et ce qui a été fait et l'état du patrimoine. Et aussi avoir un langage commun puisqu'on est sur des services différents qui parlent ensemble. Et puis après, dans l'idéal, réussir à trouver comment partager les coûts. Autre défi, qui sont le défi de toutes les solutions fondées sur la nature. Donc, l'ouvrage, il est construit à la fois en partie génie civil, et donc il va avoir des performances techniques. Et quand on va le réhabiliter, on va le réhabiliter aussi sur des parties génie civil, donc faire des réhabilitations sur une durée limitée dans le temps qui vont avoir un effet immédiat. Et puis, on a une partie plus naturelle, pour lesquels il va falloir évaluer les performances environnementales et pour lesquels les réhabilitations qu'on va mettre en œuvre, elles n'auront pas forcément un effet immédiat puisqu'il faudra le temps d'installation de la végétation. Pour faire assez court sur cet aspect. Autre défi, ces ouvrages, ils fonctionnent quand il pleut, mais ils existent aussi quand il ne pleut pas. Donc, si je veux vérifier que l'ouvrage il fonctionne bien, il faut que je le vérifie, il faut que je vérifie le fonctionnement de l'ouvrage par différents temps. Le temps sec, quand il ne pleut pas, il faut que je vérifie que l'ouvrage il fonctionne bien sur des pluies faibles, pour lesquelles il ne doit pas déborder, sur des pluies moyennes, pour lesquelles il ne doit pas déborder, voire sur des pluies exceptionnelles, pour lesquelles, par conception, on va accepter le débordement. Par contre, on voudrait vérifier qu'après, l'ouvrage est toujours en bon état. Et puis après, il peut y avoir des imprévus. Ici en 2011 dans un bassin de rétention on a un petit avion de tourisme qui s'est écrasé, donc là on n'est plus en lien avec la pluie, on est en lien avec de l'imprévu et donc l'imprévu dit qu'il va falloir suivre de manière plus détaillée et plus fréquemment ces ouvrages. Sur un gros enjeu actuellement sur la gestion patrimoniale des techniques alternatives, en fait, c'est la partie inspection. Ces ouvrages, ils sont nouveaux. Et je pense que ça se retrouve aussi sur pas mal de solutions fondées sur la nature. Pour pouvoir inspecter et vraiment savoir l'état de ces ouvrages et les performances de ces ouvrages, en fait, il faut des nouvelles compétences, voire des nouveaux métiers. Pour les techniques alternatives, les inspections, elles sont en général réalisées par les égouttiers qui connaissent bien les réseaux. mais qui ne connaissent pas du tout ces ouvrages. Et il y a des attentes très différentes entre des réseaux d'assainissement et des techniques alternatives. Et donc, il va falloir former les égouttiers, mais de manière générale, il faut former les gens qui vont inspecter ces ouvrages. Inspecter, c'est aussi, on parlait tout à l'heure de l'inspection continue, on ne peut pas être tous les jours à inspecter ces ouvrages. Donc là où on travaille de plus en plus, en fait,
Eric, moi je n'ai plus son. Alors de mon côté, je n'ai plus son. Je ne sais pas si c'est la même chose pour d'autres personnes.
Climatique, on parle de beaucoup d'aspects différents et donc on a des nouvelles attentes, des nouveaux challenges à relever sur les mêmes ouvrages. Et donc il faut que ces ouvrages ils puissent évoluer vis-à-vis de ces challenges et que la façon dont on les gère puisse évoluer aussi vis-à-vis de ces challenges. On a des cohabitations fortes de technologies puisque pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales, on aura toujours des réseaux pour gérer les eaux pluviales. Et donc on se retrouve dans une situation où on a des techniques alternatives et des réseaux. Donc on a des technologies différentes qui doivent cohabiter ensemble et qu'il faut pouvoir gérer ensemble pour que la performance globale du système elle soit correcte. Et puis après, on a des émergences d'opportunités. Je vous citais tout à l'heure la réduction des coûts de suivi des ouvrages. Si on arrive à réduire les coûts de suivi des ouvrages, c'est une opportunité forte qui permettra de peut-être mieux gérer ces ouvrages. Donc pour moi, ce transparent, il résume bien ce qu'il y a derrière la gestion patrimoniale des solutions fondées sur la nature. On doit toujours être au courant des challenges nouveaux qui vont arriver. On aura toujours des cohabitations de technologies puisqu'on n'a pas un ouvrage identique qui va aller partout. Et il faut pouvoir rester au courant pour suivre les opportunités. Voilà, je pense que j'ai été un tout petit peu plus long que prévu. Je suis désolé. Je pense qu'on va passer à la partie questions.
Oui, tout à fait. Merci Frédéric pour cet exposé très riche et un enseignement, je pense, sur la question de gestion patrimoniale. Alors, oui, on a plusieurs questions. Alors, notamment, une première question, enfin, je vais relier peut-être deux questions. Comment la gestion préventive des ouvrages, des techniques alternatives intègre les pratiques des usagers? Et une autre question, un commentaire, on pourrait aussi associer les riverains à l'inspection des ouvrages, ils ont l'avantage d'être à proximité, donc les riverains sentinelles.
Alors, c'est une bonne question. Si on prend ce qu'on faisait avant, les réseaux d'assainissement, les réseaux, ils étaient enterrés. Donc, les usagers, ils avaient finalement aucun rôle à jouer sur la gestion de ces ouvrages enterrés. Et donc, maintenant, on passe à des ouvrages qui sont en lien avec les publics urbains, avec les usagers. Et donc, là, en effet, la question, c'est comment on va les intégrer. Aujourd'hui, on va dire que la seule intégration qu'on a, en fait, c'est les plaintes des usagers qui vont déclencher des interventions. Si j'ai des plaintes des usagers parce que ça déborde, je vais aller voir. Si j'ai des plaintes des usagers parce que l'espace vert qui est à côté, il est complètement laissé en friche et ce n'est pas normal, ou alors il est… Après, on peut avoir toute une discussion sur le fait de laisser de gestion différenciée des ouvrages. Ou alors si l'ouvrage, la végétation est brûlée, etc. Donc, on peut avoir, on va dire, au mieux aujourd'hui, les plaintes des usagers qui vont déclencher des interventions. À terme, ce sera vraiment intéressant si les usagers peuvent participer à la gestion d'une manière un peu plus positive qu'uniquement réagir en termes de plaintes. Il y a des aspects qui sont de pouvoir expliquer le fonctionnement de ces ouvrages aux usagers pour qu'ils ne les utilisent pas de manière erronée. On parlait tout à l'heure du bassin sec et du fait d'avoir enlevé la vanne pour le mettre en eau. Bah, les usagers ne sont pas forcément au courant du fonctionnement de l'ouvrage et de ce à quoi sert l'ouvrage, et que l'ouvrage il doit être à sec pour les protéger en cas d'inondation, de risque d'inondation. Donc, on n'y est pas encore aujourd'hui, mais c'est clairement un volet important. Et ce volet, il passe par de l'information. Ou sur certains ouvrages, à Lyon, il y a un site assez connu qui s'appelle Porte des Alpes. sur lequel il y a toute une série d'ouvrages de gestion des eaux pluviales et sur lesquels il y a des panneaux informatifs qui ont été mis en place pour essayer d'expliquer aux promeneurs qu'est-ce que c'est la gestion des eaux pluviales et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème. Donc, il faut aller de plus en plus vers ça, vers de l'information, voire de la formation, pour que les ouvrages soient pas mal utilisés. Il y a des travaux aussi qui portent sur mieux comprendre comment les publics utilisent les ouvrages. Quand vous avez des nous ou d'autres ouvrages qui sont dans des parcs et qu'il y a des enfants qui jouent ou qu'il y a du public qui va venir dans ce parc-là, il y a des travaux de recherche spécifiques qui essayent d'être capable d'anticiper quels risques d'usage, quels usages risquent d'être faits par les publics et donc de regarder dedans ce qu'on souhaite, ce qu'on ne souhaite pas. Ça, c'est un autre aspect. Et après, si on arrive à fournir de l'information en temps réel, je vois qu'il y a une question sur les capteurs connectés et la métrologie, si on arrive à fournir une information en temps réel sur le fonctionnement de ces ouvrages et qu'on peut la partager avec les publics urbains, on pourra aussi de plus en plus les incorporer dans la gestion. Je ne sais pas si ça répond complètement, mais...
Oui, je pense. Enfin, en tout cas, la participation des riverains, des citoyens a suscité plusieurs commentaires ou questions. Et donc, peut-être une dernière question. Donc, existe-t-il des synergies entre réhabilitation technique et réhabilitation environnementale ?
Alors, je vois la question, mais alors je ne sais pas forcément comment répondre sur cet aspect-là.
Alors, peut-être si...
Le sens de la question, c'est dans quelle mesure le fait que ces techniques alternatives soient souvent multifonctionnelles fait qu'il y a un certain nombre de réhabilitations environnementales qui sont réalisées et dans quelle mesure ça peut avoir des interactions positives avec l'entretien des ouvrages pour leur fonction par rapport à la gestion des eaux pluviales.
Sur ces ouvrages, la végétation ou la partie naturelle, elle rend un rôle en général très important. Pas que esthétique, sur les problèmes de colmatage qu'on peut avoir dans les sols. La végétation, elle peut contribuer à réduire ces problèmes de colmatage. Dans certains ouvrages, la végétation, elle peut aussi conduire à traiter l'eau dans une mesure peut-être plus faible. Donc, il y a des synergies. La végétation, elle n'est pas décorative, quoi. Elle est vraiment pensée pour aider le fonctionnement de l'ouvrage. Quand on va avoir des zones de ruissellement avant d'arriver sur un ouvrage, dans certains pays, on a tendance à avoir des zones de ruissellement, des surfaces de ruissellement qui vont être engazonnées pour essayer de piéger une partie des fines et une partie de la pollution pour protéger l'ouvrage qui va vraiment avoir sa partie infiltration. Donc, il y a déjà ces synergies. Alors, pour moi, elles ne sont pas forcément au niveau de la réhabilitation, elles sont vraiment dès la conception. Dès la conception, on doit penser l'ouvrage avec la partie naturelle et la partie génie civil. Après, génie civil, pour moi, ça inclut aussi le naturel. Donc, je suis un peu gêné de dire ça, mais bon, avec la partie technique et la partie naturelle, on le fait dès la conception, ça. Et en général, la réhabilitation, dans la majeure partie des cas, elle vise à redonner les performances de l'ouvrage. Donc, elle est souvent à l'identique de la conception, sauf si on a des attentes différentes ou sauf si la conception elle a pas rendu les services qu'elle devait fournir, en fait. Donc, la synergie, elle est dès la conception. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'était Philippe qui posait cette question.
Je ne veux pas monopoliser, je ne sais pas comment on est en détail, mais je me posais la question plutôt du fait que la réhabilitation environnementale nécessite peut-être justement des visites beaucoup plus régulières en termes d'entretien des espaces verts, par exemple. Et je me posais la question dans quelle mesure le fait que cet entretien soit plus régulier et du coup pourrait avoir des avantages aussi pour l'entretien de l'autre fonction de gestion des eaux pluviales de l'ouvrage.
Là, on est sur le fait qu'on a des acteurs différents qui vont arriver sur l'ouvrage. Et donc, la partie végétalisée, elle demanderait peut-être aux espaces verts de passer plus fréquemment à entretenir l'ouvrage. Et au passage, les espaces verts pourraient renseigner sur le fonctionnement hydraulique de l'ouvrage. C'est ça un peu l'idée de la question, je pense.
C'est un peu l'idée. Hein.
On est dans la limite, en fait, où les espaces verts, on leur donne de plus en plus d'ouvrages à gérer, en fait, puisqu'ils avaient leurs espaces et ils se retrouvent à gérer aussi les ouvrages de gestion des eaux pluviales. Donc, ça pose des problèmes où ils sont peut-être plus capables d'assurer le suivi de tous leurs ouvrages et donc ils vont déléguer peut-être une partie de ça à la, à la partie direction de l'eau ou assainissement. Donc, il y a cette réponse-là qui est qu'on n'arrivera peut-être pas finalement à inspecter aussi régulièrement qu'on le voudrait les ouvrages naturels, en partie naturels. Et l'autre aspect aussi, c'est que ça suppose qu'on ait bien formé les personnes qui vont intervenir sur la gestion des espaces verts pour qu'ils comprennent le fonctionnement hydraulique de l'ouvrage, qui n'est pas si simple à comprendre, puisque quand ils vont intervenir, il ne pleut pas, donc ils ne voient pas l'eau passer, donc ils ne voient pas le trajet de l'eau. Donc, ils ont moins d'informations sur le fonctionnement de l'ouvrage. Mais c'est la direction. Hein. Je pense qu'il y a, des collectivités qui sont novatrices et à la pointe et qui visent à, au lieu d'avoir une gestion très séparée par îlot où il y a la partie espace vert, il y a la partie eau, il y a la partie déchets, d'essayer de faire des pôles de compétences où finalement, ce pôle-là regroupe les différentes compétences et on passe qu'une seule fois et on regarde l'intégralité de l'ouvrage, l'espace vert, la partie hydraulique, on nettoie les déchets s'il faut et ainsi de suite. On va de plus en plus dans cette direction-là. Mais elle n'est pas simple à mettre en œuvre à la fois en termes de formation des personnels et puis après, je pense, en termes aussi de management interne.
Très bien, c'est un débat très intéressant. Il y a beaucoup de questions sur ta présentation, enfin Derrick, donc merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci pour les échanges. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas pouvoir prendre plus de questions qui arrivent encore. Par contre, il y a une session cet après-midi qui traite de la gestion patrimoniale. Il y aura un débat après les quatre présentations. Donc, je vous invite à reposer les questions pour à ce moment-là, les questions auxquelles on n'a pas pu répondre malheureusement.